un avion sans air. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour serre.
Radio. Radio.
Toute la nuit.
Radio, radio, panique.
Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 3, l'état de grâce de Radio Panique est de très courte durée. Bonjour la crise sur fond de conquête irrésistible des ondes par les radios commerciales.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam.
À sa naissance en 1783, Radio Panique se veut radio libre et affirme donc sa filiation avec les radios libres du début, en particulier avec Radio Air Libre et Radios Alternatives. En même temps, si ses protagonistes ne rejoignent pas ces deux monstres sacrés de la radio libre et se lancent dans un nouveau projet, c'est qu'ils se démarquent quelque peu de leur idéologie et surtout de leur mode de fonctionnement. Radio Panique ambitionne de devenir une autre radio libre. Radio Air Libre et les radios alternatives vivent et survivent grâce à leur image très typée. Une image perçue d'une manière d'autant plus mythique qu'en fait, on ne les écoute plus. Mais dans le milieu des radioteurs, cette image positive est largement ternie. Se complaire dans l'inorganisé et l'incohérent, voire le vandalisme et le misérabilisme, n'est plus perçu comme les signes évidents de l'auto-expression libre des citoyens et de la démocratie directe. Dès le départ, Radio Panique veut échapper à ce type de dérive afin d'assurer au message antiraciste et démocratique qui est le sien une audience aussi large que possible. Il s'ensuit des divergences au niveau des moyens. Nous estimons que notre programmation peut rester libre et indépendante même si nous recevons des subsides et, le cas échéant, diffusons un peu publicité. Nous ne cesserons de revendiquer des subsides de fonctionnement et de personnel. Il nous semble illogique que la communauté française ne subsidie pas les radios qu'elle reconnaît comme faisant œuvre d'éducation permanente. Nous ne craignons pas en outre d'engager, via une autre association, un permanent au statut de TCT, alors que selon la ligne pure et dure de la LOT, il est essentiel que chacun, dans une radio libre, reste bénévole et amateur. Nous regrettons l'absence de professionnels, notamment au niveau de la maîtrise de la technique et du langage radiophonique, pour encadrer les radioteurs qui viennent à nous. Conscient que le spontanéisme conduit à des prises de pouvoir incontrôlables, nous établissons d'emblée les règles de fonctionnement de l'association et nous les prenons au sérieux. Les membres de la radio ont des droits et des devoirs qui sont définis. Quel est alors notre état d'esprit? Nous pensons que nos positions vont empêcher que Radio Panique soit une radio aussi caricaturale et aussi confidentielle que ne le sont devenues Air Libre et Alternatives. Avec le recul, il est facile de percevoir que nous commettons deux graves erreurs. D'une part, nous sous-estimons le fait que la situation de jungle sur les ondes va perdurer et aura les conséquences les plus désastreuses pour les radios libres. D'autre part, nous surestimons la force du mouvement qui nous soutient et sur lequel nous comptons pour avoir les moyens de réaliser notre projet. En attendant, début 1984, c'est l'état de grâce pour Radio Panique. Notre jouet fonctionne. Waouh !
Radio Panique, un enjeu pour les progressistes. Extrait d'un article paru dans Courrier 1030, numéro 18, juin 1984.
À travers émissions d'informations, de services, de musique ou de divertissement, l'objectif de Radio Panique est d'être une caisse de résonance des problèmes et des espoirs des populations qui occupent la première couronne de l'agglomération bruxelloise et, plus immédiatement, les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse où nous sommes installés. Elle se veut un instrument de communication et d'échange, un médium d'entretien permanent et de créativité aussi, cela en vue de coopérer au mouvement social de solidarité qui est d'autant plus nécessaire à l'heure actuelle qu'il est mis en brèche par les mécanismes de division, de repli sur soi, de ghettoisation, de marginalisation que draine la politique dominante d'austérité. Résumons en avançant que Radio Panique est un médium qui tend à donner et à assurer son audience un style d'exister orienté vers un avenir social et culturel plus ouvert et plus juste pour les populations en jeu. C'est un défi face aux tendances, aux fermetures, aux marginalisations, aux violences. Cela dans le brassage et le mixage de mentalités parfois très diverses. Comme tel, Radio Panique n'est certes ni la première ni la seule association axée sur cet objectif. Mais à l'heure actuelle, elle est bien l'unique station de radio locale qui se définit essentiellement comme telle. Et c'est bien pourquoi nous nous permettons de demander leur aide à toutes les forces démocratiques et progressistes, car notre enjeu, quelque part, est le leur.
Le journal de bord de Radio Panique.
Le journal de bord sera un des dispositifs de communication interne les plus prisés à Radio Panique. Il fonctionnera contre vents et marées jusqu'à 1995, moment où il sera remplacé par des fiches techniques plus professionnelles. Pourquoi un journal de bord? Le journal de bord doit servir la gestion technique. On est invité à signaler les défectuosités remarquées ou occasionnées. Comme la plupart des émissions ont lieu le soir ou le week-end, en l'absence du permanent, celui-ci pourra le lendemain prendre les dispositions qui s'imposent. Nous sommes conscients que les animateurs vont réaliser leurs émissions dans les temps qui leur sont impartis et qu'ils courent le risque de ne jamais se rencontrer. Le rythme soutenu des assemblées générales du début ne pourra évidemment pas être maintenu. Nous voulons un instrument qui permette la communication entre les différents animateurs et favorise leur sensibilisation progressive aux objectifs de la radio. En fait, à côté de l'affichage des informations internes de la radio, nous voulons créer un instrument pour promouvoir quelque chose comme une culture d'association des membres de l'association. Nous demandons dès lors aux membres des différentes émissions d'utiliser le journal de bord pour décrire brièvement leur contenu et exprimer leurs remarques et leurs critiques par rapport aux autres émissions, par rapport à la radio dans son ensemble aussi. Le journal de bord se présente sous la forme de simples cahiers d'écolier. Plus d'une vingtaine seront remplis jusqu'en 1995. Leur ensemble constitue un des fils qui tisse l'histoire de Radio Panique. Bien sûr, les consignes du départ n'ont guère été observées, notamment sur le point principal, le résumé du contenu des émissions. À certaines périodes, le journal devient carrément poétique. À d'autres moments, les cahiers se remplissent de dessins. Parfois, des feuilles sont arrachées, dans le besoin immédiat de noter un message téléphonique ou de rédiger sa prochaine intervention au micro. Le journal de bord de Radio Panique a ainsi son histoire spécifique et continue. Il est le reflet d'une mémoire collective. C'est pourquoi nous nous permettrons d'en citer fréquemment des extraits dans nos émissions.
Extrait du journal de bord de Radio Panique, les débuts.
4 novembre 83, courrier 1030.
Émission en retard, problème d'installation.
14 décembre 83, nuit bleue.
Mort de Robert Aldrich. Émission presque réussie.
16 décembre 83, Flash Culture.
Première émission un peu difficile, le track. Mais ça va marcher, donc pas de panique. Merci.
22 décembre 83, Murmure.
Les murmures s'amplifient et passent toutes les cloisons. Émission 2, après spéciale drogue, spéciale révolution. On est content. Bonnes vacances.
24 décembre 83, Habt keine Angst.
Weet je was haar tekstjes vergeten en heeft dus niets gezegd. Maar ze heeft wel heel, heel goed de techniek gedaan. Bravo, Gretje.
25 december 83, courrier 1030.
11h15, Philippe arrive. On lance la cassette parce que ni lui ni moi n'avons fait de la technique jusqu'à présent. Arrivée de Luc plus tard, on téléphone à Marcel, vaseux, en partance pour Lyon. On n'a pas d'infos à donner, il n'y a même pas de foot ce week-end. Conclusion, on a fait un cadeau aux auditeurs en leur donnant de la musique quasi ininterrompue, non signée.
13 janvier 83, Flash Culture.
C'est bien, mais la solitude me tracasse de temps en temps.
16 janvier 84, Inconnu anonyme.
J'ai fait une émission New Wave totale, mais seule en studio. C'est tuant. Et en écoutant ma voix, je pense qu'elle ne devait pas être très enthousiasmante à écouter. Sinon, techniquement, ça a été bon.
29 janvier 84, Brainwashing.
On nous a téléphoné pour dire que la musique est vachement chouette. Putain, c'est vachement bien.
Wild Wattage.
Record en ce qui concerne les appels téléphoniques. Ça devient chouette, Thierry.
2 février 84, Murmure.
Didier a ramassé un jeune chanteur de rue sur le trottoir. On l'a invité à l'émission, c'est très bon tout ça.
4 février 84, Habt keine Angst.
Kreetje, de beste uitzending tot nu toe van ons, hè? The first time dat ik me goed geamuseerd heb en content de studio buiten stap. Pas de deux, je vous aime, voilà, pipi aussi prout, dada.
8 février 84, Nuit Bleue.
Pour le deuxième deck, c'est super, on peut enfin jongler avec nos petits jingles.
23 février 84, Flash Culture.
Émission super planante. On a même eu de la visite.
4 mars 84, Presencia Latino-Americana.
Émission pleine de soleil. Musique de la Colombie, rien à signaler.
Les enjeux cachés de la politique de jungle sur les ondes FM.
Dans les premières années de la décennie 80, les joutes autour des reconnaissances des radios libres et autour du oui ou du non à la publicité dans les radios ne sont qu'une partie de l'énorme confrontation politique qui oppose d'une part Philippe Moureau et ses amis socialistes avec leur bastion la RTBF et d'autre part Jean Gol et ses amis libéraux. Depuis 1977, après sa communautarisation, les administrateurs de la RTBF, reflet exact des forces en présence au Parlement francophone, défendent désormais moins une RTBF autonome face à l'appétit des partis qu'au contraire l'emprise de ces derniers sur l'institut public. La RTBF, sous la houlette de Robert Wangermé, PS, et Jean Allais, démocrate chrétien, est au début des années 80 quasi totalement dominée par une alliance rose-romaine. Après leur succès électoral en 1981, dépassant le PSC, le Parti libéral avec Jean Gol mène une double bataille quant à l'audiovisuel. D'une part, on tente à culpabiliser la direction et les journalistes de la RTBF, qui sont traités de gauchistes, et on conquiert le terrain du côté des postes à responsabilité. D'autre part, les libéraux s'attaquent avec beaucoup de virulence au monopole de la RTBF. La bataille des radios du GRIB annonce la couleur, mais l'enjeu principal est l'introduction en télévision de RTL-TVI sur le réseau hertzien belge. La confrontation avec la RTBF devient frontale. On le sait, la publicité est toujours de compétence nationale. Les libéraux présents au gouvernement national s'opposent à l'intention des socialistes d'introduire la publicité à la RTBF pour soulager son financement. En représailles, les socialistes, dominants au niveau de la communauté française, ne reconnaissent ni RTL-TVI, ni aucune radio du GRIB. De plus, ils déclarent vouloir attribuer à l'exécutif de la communauté le pouvoir de déterminer ce qui peut et ce qui ne peut pas transiter par le câble. RTL pourrait être interdite, par exemple, parce que ne correspondant pas aux normes culturelles. Dans ce contexte, le décret et les reconnaissances de radios qui favorisent les radios de l'ALO peuvent apparaître non comme une prise de position politique claire pour ces radios, mais plutôt comme une manœuvre politicienne dont les représentants les plus radicaux et les plus sincères de l'ALO sont les jouets. En effet, le même exécutif qui les favorise sur le papier tolère que les radios commerciales triomphent illégalement sur le terrain, sur les ondes. Ce ne sont pas les radios de l'ALO elles-mêmes qui sont importantes pour le pouvoir dominé par le Parti socialiste, c'est seulement leur concept ou l'image de leur réalité, un pion sur l'échiquier. les radios libres de l'Halo ne représentent aucun enjeu important dans la cour des grands. La suite de l'histoire ne cessera de le montrer.
Radio Panique, une oreille plus loin.
Le permanent de Radio Panique découvre la radio.
Je ne comprends scientifiquement rien au phénomène radio, si bien que celle-ci garde et gardera toujours pour moi un caractère un peu magique. Avant, j'étais auditeur. Mon premier souvenir d'écoute de la radio remonte au temps de la guerre 40-45. Réfugié dans la cave sous les bombardements, mon père écoutait clandestinement les émissions de la BBC. Et après DNR, puis les grandes heures de RTL et Europe 1. Et aussi les émissions novatrices de RTBF Liège et Namur dans les années 70. J'ai toujours été ravi ou ennuyé par la radio, jamais indifférent. Avant l'arrivée de la télévision, elle m'a sans cesse accompagné en sourdine ou objet de toute mon attention. À présent, me voici du côté des acteurs. Je médite sur le phénomène de circulation qui relie ce qui se passe dans un studio et l'écoute de l'auditeur. Je le perçois à la manière d'une sorte de flux ininterrompu à distance où ce qui se déroule au départ et ce qui se déroule à l'arrivée sont forcément différents. C'est déjà vrai dans une communication téléphonique. Et c'est vrai aussi dans une conversation face à face. Il y a à la fois production de flux et phénomène de distanciation. Seuls ceux qui maîtrisent ces deux données font de la bonne radio, je pense. C'est-à-dire créer un effet de communication plus ou moins riche. Dès ce moment, je sais que même des procédures comme la proximité ou le direct, par exemple, sont ou devraient être du construit. La bonne radio est une sorte d'art. J'apprends petit à petit à utiliser notre régie technique. J'observe les animateurs. Je commence à comprendre le petit bonheur qu'il y a à savoir programmer une série de musiques qui, même différentes, s'enchaînent les unes aux autres, acquérant une sorte de plus-value par leur rapprochement, leur mixage, leur juxtaposition ou leur mise en distance. C'est un peu comme cela que ça se passe avec les couleurs d'un tableau, et ça, je le connais mieux. Tout le monde ne le fait pas avec le même bonheur. Il est difficile d'analyser pourquoi tel DJ vous charme alors que tel autre vous hérisse le poil. Je perçois également quelle jouissance intime il y a à bien réussir un mixage, un enchaînement ou un fondu. Je commence aussi à avoir des critères pour apprécier les passages de la musique à la parole ou de la parole à la musique. Bien vite, les superpositions de sources sonores me fascinent. Bref, auparavant, j'appréciais les contenus des musiques ou des paroles en elles-mêmes. À présent, je suis également sensible au travail du DJ et de l'animateur radiophonique. Je commence à écouter différemment la radio. Je sens la différence qu'il y a entre l'animateur qui s'étale dans son narcissisme, celui qui ne cherche qu'à séduire ou à être aimé immédiatement, et celui qui respecte l'auditeur en fabriquant son produit comme pour lui offrir un cadeau. Un cadeau pour son intelligence, son imagination ou son plaisir. Ou pour tous les trois à la fois. Je remarque qu'un certain type d'animateur n'a pas du tout ce souci. Ce sont principalement les animateurs qui croient être dépositaires d'un message social ou politique. La radio, pour eux, c'est un peu comme un robinet ouvert pour déverser leurs paroles. Peu le font avec le souci de l'art. Peu savent parler devant un micro. Certains hurlent comme s'ils étaient devant un gueulophone à un meeting. D'autres n'ont aucun souci de l'articulation. Ils parlent mal sans vouloir mal parler. Moi-même, participant aux émissions du magazine d'information générale Courrier 1030, je suis littéralement angoissé devant le micro, surtout quand je suis seul. J'écris à l'avance tout ce que je vais dire. Je n'abandonne cette peur, et je ne m'abandonne parfois que lorsqu'une situation, celle de l'interview, du dialogue ou du débat par exemple, me prend tellement que j'en oublie l'existence des micros. Je m'aperçois vite que je suis, et resterai, un très mauvais animateur en direct. Mais la radio n'est pas que du direct.
Extrait du journal de bord de Radio Panique. Panique égale merdique.
November 83, pluriel info.
Petit problème technique.
Même jour, nuit bleue.
Dû à la radio ou à vous?
Réponse de pluriel info.
À nous, il faut pas le dire trop fort.
10 décembre 83, Scooby-Doo.
Émission zéro. Raté. Très merdique. Plus moyen d'avoir un retour par la radio pendant une demi-heure.
12 décembre 83, self-service.
Pas d'émission, platine 2 hors service.
Big Bob Machine.
Nous sommes déçus car nous n'avons pas été avertis qu'une platine était en panne.
25 décembre 83, courrier 1030.
11h15. La manette du mixage a une fâcheuse tendance à se déboîter.
26 décembre 83, self-service.
La commande monitor est déréglée et ne correspond plus aux fonctions.
27 décembre 83, fréquence rose.
Beaucoup de difficultés techniques car on n'avait pas de retour sur la table de mixage.
29 décembre 83, self-service.
Je constate que toute la pré-écoute sur la table de mixage est bousillée. Nota bene, je suis parvenue à la remettre sur output pour qu'on puisse au moins entendre ce qui sort. Je propose qu'on ne touche pas jusqu'à ce qu'on ait du fric pour la faire réparer.
4 janvier 84, nuit bleue.
Ouais, la sono sans pré-écoute, ce n'est pas le pied. Sinon ça va, juste un peu distrait.
8 janvier 84, courrier 1030.
On estime que la technique était fort bonne hormis le fait que les 45 tours passaient en 33. Notre technicien fait des essais pour améliorer la sensibilité des micros. Le bruit de la pluie et de la grêle passe allègrement dans les micros du studio. Quand on parle dans le micro 1 et 2, il est déconseillé d'ouvrir le curseur musique, même pour une musique de fond.
11 janvier 84, nuit bleue.
Le deck est une vraie merde.
16 janvier 84, c'est le service.
Pourrait-on ne pas enregistrer sur les cassettes se trouvant à la technique? Ça pose quelques problèmes à ceux qui veulent les utiliser, merci.
20 janvier 84, Flash Culture.
La technique est triste avec un deck et une platine. Ça veut tout dire. Panique égale merdique.
La radio minimale, choix ou fatalité?
Le matériel de basse fréquence de Radio Panique, à ses débuts, est composé de briques et de brocs. Nous recevons de Radio Josaphat quelques bricoles ayant échappé au vandalisme. Des animateurs nous prêtent quelques appareils. Les seuls achats au départ sont une platine à caille pour 5000 francs et une mixette Tandy réalistique pour 9000 francs. Nous empruntons régulièrement du matériel au service de prêt de la communauté française, car c'est encore possible à l'époque. Et c'est ainsi que l'on commence à faire de la radio.
L'animateur qui arrive allume l'interrupteur général. Et si les croyants prient pour que tout fonctionne, ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors chipoter pour trouver le câble déconnecté ou la fiche manquante.
Parfois, on est distrait, on fait son émission sans avoir allumé l'émetteur. Quand on s'en va, il ne faut pas oublier d'éteindre tous les appareils, y compris l'émetteur. Grand silence brouillé par d'autres radios, jusqu'à ce qu'un autre animateur arrive, à moins qu'il ne mette à son tour de rallumer l'émetteur.
La régie technique restera dans un état rudimentaire tant que nous serons rue Gillon jusqu'en 1987 et même au-delà. C'est la radio à l'état minimal. On est en pleine contradiction avec nos objectifs. Bien sûr, au gré des rentrées, nous achèterons progressivement du matériel. En l'absence de techniciens professionnels, je devrais souvent m'occuper moi-même des investissements et de la tendance, moi qui n'y connais que dalle en technique. C'est la galère pour moi, le permanent. J'appréhende d'arriver le matin à la radio et de constater les dégâts. Combien de fois ne me suis-je pas arraché les cheveux de désespoir en découvrant les pannes, les défectuosités des appareils pas bien entretenus, malmenés par certains animateurs. J'irai jusqu'à supplier à genoux des ingénieurs du son professionnel pour qu'ils viennent m'aider. Bénévolement, bien sûr, on n'a pas les moyens de les payer. Parfois, je l'avoue, l'écœurement et l'impuissance sont tels que j'ai envie de tout casser, claquer la porte, et de partir à la mer écouter les mouettes, et surtout, plus de son de radio. Je comprends l'idéologie des premiers radiolibristes qui prônaient la radio minimale comme outil adapté pour l'auto-expression de n'importe qui. Et puis le grand art, n'est-ce pas, c'est avec rien de faire tout. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon, etc. Mais cessons de mystifier. Pour moi, la radio minimale m'a été un choix imposé par les circonstances extérieures, donc une nécessité de misère. Je ne regrette certes pas d'avoir appris ce que je sais de radio dans ces conditions, car j'apprécie aujourd'hui à sa juste valeur et avec ses vraies références le fait de travailler avec un ingénieur du son qui monte ma réalisation sur un ordinateur. Cependant, en tant que responsable et permanent de radio, je souffre de n'avoir à présenter aux animateurs et visiteurs de la radio qu'un outil à tout moment chancelant, mal foutu, en panne. Quelle ironie alors de parler de radio minimale comme un plus pour la libre expression de n'importe qui. C'est bien à la mesure de cette expérience quotidiennement traumatisante que j'apprécierai 10 ans plus tard, comme un cadeau du ciel, l'investissement incroyable, imaginatif et bénévole d'un vrai ingénieur du son dans la régie technique de Radio Panique. Et oui, cher Patrick Verdrenk, c'est aussi loin que s'enracine mon respect et mon amitié à ton égard, jusque dans tes délires et dans tes dérives.
Le journal de bord de Radio Panique. Mais quel bordel cette radio!
11 janvier 83, fréquence rose.
Fuite de gaz à la technique.
Plus rien d'info.
Faudrait penser à mettre la lumière au WC et ça pose des problèmes.
Ajoute d'un anonyme.
Et à ne pas laisser ses bières et mégots à la technique, s'il vous plaît.
Nuit bleue.
Les émissions du mercredi laissent toujours la technique remplie de cendres sur les appareils. Les cendriers remplis, des bouteilles et capsules de bière et des miettes. De pain, peut-être, sur la table. Conclusion, bravo les dégueulasses.
12 janvier 84, murmure.
Pas de problème, on a vidé les cendriers et jeté les vidanges.
14 janvier 84, le permanent.
Je passe à la radio. Le convecteur est sur 5 alors que la porte de la cour est grand ouverte et que la clé de la technique a disparu.
Plein de mèches in de stomp.
Waar is de sleutel van de deur die toegang geeft tot de studio?
15 janvier 84, courrier 1030.
Comment a-t-on fait pour aller en technique sans la clé?
16 janvier 84, c'est le service.
Pourrait-on ne pas enregistrer sur les cassettes se trouvant à la technique? Ça pose quelques problèmes à ceux qui veulent les utiliser. Merci.
19 janvier 84, murmure.
Quel est le gros dégueulasse qui a laissé son sale mouchoir bleu sur la table, nom de Dieu? La prochaine fois, si le mouchoir n'est pas parti, je laisse mes chaussettes.
Flash culture.
Maman, ton slip.
25 janvier 84, nuit bleue.
Personne ne s'étonne que les disques offerts et déposés en studio disparaissent. Comme tous les mercredis soirs, on doit commencer par nettoyer studio et technique. Mégots, capsules, vidange de bière. Bisous quand même, va.
26 janvier 84, murmure.
Le micro 2 ne fonctionne pas, le micro 1 non plus. Mais on a vidé les cendriers.
29 janvier 84, bip-bop machine.
Technique, tout est ok. On vide les cendriers et on jette les cadavres de bouteilles. Donc, tout est propre.
1er février 84, nuit bleue.
Merci à ceux qui ont installé l'électricité et tout nettoyé. Pourvu que ça dure.
8 février 84, crème fraîche, hop de pick-up.
On marchait normalement et la vitre qui est au-dessus du tapis plein s'est cassée.
12 février 84, courrier 1030.
Sans chauffage, il fait vraiment très froid. Luc à la technique a les mains bleues.
17 février 84, femme, je vous aime.
Émission sans problème, sauf le chauffage fermé.
Flash culture.
On se dégèle.
19 février 84, Wild Wattage.
Le chauffage était à nouveau éteint.
4 mars 84, courrier 1030.
Explosion du chauffage de la technique. Il y a de la suie noire partout.
16 mars 84, crème fraîche, hop de pick-up.
Le chauffage de la technique est encore en panne. Pourtant, le printemps ne commence que mercredi prochain.
25 mars 84, Presencia Latino-Americana.
Cela sent fortement les gaz. Pourtant, nous n'avons pas touché au convecteur.
4 avril 84, crème fraîche, hop de pick-up.
En de anderen, een beetje duidelijk schrijven alsjeblieft.
13 avril 84, flash culture.
Cendre et mégots dans un verre, c'est dégueulasse. On a fait le nettoyage.
20 avril 84, flash culture.
À tous les cochons de la radio, toujours les cendriers pleins.
26 avril 84, nuit bleue.
Je trouve vraiment dégueulasse les cendres et crasses qui nous attendent.
27 avril 84, flash culture.
Encore une fois, la propreté laisse à désirer.
2 mai 84, pluriel info.
Chouette le bordel. Marcel, c'est à qui le tour de nettoyer? Rien n'est marqué sur le panneau.
L'état de grâce des débuts de Radio Panique ne dure que quelques mois. Dès mars 1984, Radio Panique est en situation de crise et cette situation se prolongera jusqu'en 1987. C'est directement sa survie et son identité qui sont en jeu. Cette crise a deux causes profondes.
La première cause résulte de la situation institutionnelle belge qui nous échappe totalement. Le gouvernement national, libéral et socio-chrétien, et l'exécutif de la communauté française, socialiste, n'arrêtent pas de s'opposer et de se paralyser mutuellement dans le domaine de l'audiovisuel. Conséquence sur le terrain, la jungle sur les ondes. Les radios non commerciales reconnues par l'exécutif de la communauté, et notamment Radio Panique, sont brouillées et écrasées par les radios commerciales non reconnues qui ne sont pas vraiment réprimées.
Comment réagir? Tenter de se battre dans la cour des grands? C'est-à-dire émettre par exemple des kilowatts de puissance et installer l'antenne sur un building de l'avenue Louise. C'est impossible financièrement et cela nous mettrait dans l'inégalité. Or, justement, nous pensons, par nécessité sinon par choix, que la légalité est notre seule arme dans cette affaire. Mais en l'absence de plans et d'attribution de fréquences, en l'absence aussi d'une répression réelle des radios illégales, le respect de la légalité nous tue dans la pratique.
La deuxième cause de la crise, désormais récurrente, est interne. Les responsables sont submergés, bien sûr, par les problèmes financiers.
On a déjà mentionné que le capital financier de départ était de 250 000 francs. À titre de comparaison, signalons que Radio Air Libre a commencé avec un capital de 500 000 francs, FM Bruxelles avec 1 million. La rénovation du local et l'installation de la haute fréquence, antenne et émetteur, ont réduit le capital de départ à une peau de chagrin. Les rentrées d'argent ne suffisent même pas à couvrir les dépenses courantes. Puisque ces rentrées proviennent essentiellement des cotisations d'animation, ne sera-t-on pas tenté d'accueillir n'importe qui sans être trop attentif au contenu des programmes ?
Les causes externes et internes de cette première longue crise de Radio Panique s'entremêlent et se conditionnent mutuellement. Nous le verrons par la suite. L'objectif du début, à savoir être un autre type de radio libre, en alliant le confort d'écoute pour les auditeurs à une qualité intrinsèque des programmes, apparaît très vite compromis. Le doute s'insinue dans les esprits. N'avons-nous pas lancé trop tôt Radio Panique ? L'impatience du groupe fondateur n'a-t-il pas eu raison de la prudence élémentaire ? Une crise d'identité s'ensuit. L'atmosphère devient rapidement lourde. Très déçus, la plupart des animateurs du début cesseront bientôt leurs émissions. Plusieurs des membres fondateurs de la radio iront jusqu'à penser qu'il faut arrêter les frais. D'autres, cependant, feront le gros dos et assureront vaille que vaille la survie de la radio. À quel prix pourrait-on demander aujourd'hui ?
Extrait du journal de bord de Radio Panique, le manège des micros.
Janvier 84, nuit bleue.
C'est génial que personne ne note rien dans ce carnet depuis le 23 du 1, alors que la table de mixage des micros 1 et 3 n'a plus de piles, et que le bouton volume du micro 3 ne correspond plus à ce qu'il indique. Bouton forcé, comme sur la première table.
26 janvier 84, murmure.
Le micro 2 ne fonctionne pas, le micro 1 non plus, mais on a vidé les cendriers.
27 janvier 84, flash culture.
Micro, burk. Ne pas éteindre la table de mixage grise en dessous de la table de micro 1 et 2.
1er février 84, nuit bleue.
Micro technique. L'impression de devoir gueuler pour que ça passe.
23 février 84, crème fraîche shop de pick-up.
Quelqu'un a encore trouvé le moyen d'intervertir les micros.
2 mars 84, flash culture.
Les micros ne sont pas à leur place. Ne pas les changer, ça ira mieux.
9 mars 84, flash culture.
Pour tous. Qui touche les micros, c'est dégueulasse. Quelle soupe à la technique pour les micros ?
11 mars 84, courrier 1030.
Tous les micros sont intervertis.
Presencia Latino-Americana.
Rien de spécial à signaler, sinon que le micro numéro 3 ne semble pas fonctionner.
13 mars 84, info panique.
Le micro indiqué 2 est celui qui est indiqué 4 à la table de mixage.
25 mars 84, brainwashing.
Le micro est beaucoup trop sensible aux effets d'Arsène.
1er avril 84, brainwashing.
Le micro va bien.
'Radio Air Libre voudrait jouer dans la cour des grands et décide de se marier avec les radios alternatives.
Début 84, Radio Air Libre connaît une période de turbulence interne et ses émissions sont brouillées par Radio Maeva. Elle arrête d'émettre pendant quelques mois. Sabine Missistrano annonce la couleur. Alternative libertaire, numéro 60, mars 84, page 8.
On va s'offrir une antenne très haute sur un immeuble très haut, comme ça on saura comme SIS contacter les autres. Et notre voix, la vôtre, celle de tous les exclus, margeaux, dérangeants, on l'entendra aussi partout.
On recherche 250 000 francs. Finalement, Radio Air Libre s'installera chaussée d'Alzenberg, pas loin de l'altitude 100. À Scarbeck, il restera quasi impossible de la capter. Il est décidé en outre de partager une seule fréquence avec les radios alternatives. La Sainte Alliance est consacrée au début septembre 84 et donne lieu en octobre à 72 heures de radio d'expression et de création. Un tract annonce le mariage, entre guillemets.
Les radios alternatives et Radio Air Libre ont des projets différents. Bon. Mais pouvons-nous encore vivre sur des projets de papier
dans une réalité accablante où notre extase à peine à venir. Hein, là-haut, vous là, c'est bien simple. Si on veut voir les choses en face, il n'y a plus sur Bruxelles une seule radio d'expression crédible. Oh, c'est vrai, non ? Sommes-nous capables de créer cette radio en nous mettant ensemble ? Ça, c'est la question. Ça fait 3 ans qu'on pense que les choses vont s'arranger et que des gens géniaux vont se jeter à nos pieds pour solliciter l'honneur indicible de caresser nos potentiomètres en léchant nos micros. Bark ! Nous ne pouvons plus attendre dès le lendemain meilleur des fréquences orthopédiques ou des studios amphibies à l'épreuve du feu. Ah ça non, on ne peut plus. Parce que notre pari est de transformer le bruit de fond radiophonique en écoute passionnée, en discours volubile, il s'agira toujours d'inventer la radio.
Comme un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit.
Radio. Radio.
Extrait du journal de bord de Radio Panique.
21 janvier 84, Blonde de Mèche in the Stump.
Pick up in, capote.
22 janvier 84, courrier 1030.
On a démonté la platine de gauche, c'est la courroie qui était tordue et freinait le mécanisme. On peut se demander comment elle s'est retrouvée tordue. Il ne faudrait peut-être pas changer de vitesse pendant que la platine tourne. On a trouvé une cassette fondue. Elle était posée près d'une lampe qui dégage beaucoup de chaleur.
21 février 84, le permanent.
Soudain, le deck 2 perd toute puissance. Font contact avec la table de mixage.
23 février 84, crème fraîche op de pick-up.
Seul au studio. Gezocht, un techniker.
26 février 84, brainwashing.
Problème avec l'émetteur. Faux contact dans les fils quand on les touche. C'est bon, sinon ça glande.
3 mars 84, habt keine Angst.
Enkele problemen parce qu'il était en train d'enregistrer pendant notre super programme qui est commencé en retard alors que la foule anxieuse nous attendait. Voor de rest is alles KO en ook OK.
4 mars 84, courrier 1030.
Marcel à la technique comme un chef.
Brainwashing.
Rien de spécial à part le fait que le nombre d'auditeurs doit être très 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 petit.
5 mars 84, nuit bleue.
Enregistrement en studio avec des professionnels. Quel plaisir. Le soir, retransmission de forêt complètement foireuse. B n'est pas au rendez-vous. On s'est cassé le cul pour pouvoir aussi avoir la salle gratuite pour une soirée radiopanique. C'est réussi.
18 mars 84, brainwashing.
L'émetteur s'arrête soudainement soudain. R.A.S.
8 avril 84, Écho Sud.
C'est absolument dingue de débrancher l'émetteur.
10 avril 84, crème fraîche op de pick-up.
On doit contrôler la caille. J'ai 4 LP et un maxi qui sont restés sur le même morceau.
21 mai 84, nuit bleue.
Ceux et ceux qui souhaitent savoir comment fonctionne l'enregistreur à bande, rendez-vous à la réunion des animateurs du lundi 28 du 5. Ça a l'air simple, mais c'est un petit ficelard qui fout les bandes en l'air. D'autre part, fin mai, on doit rendre au service de prêt le matériel emprunté. Alors, question, que se passe-t-il ? Comment continuer ?
19 mars 84, Écho Sud.
Première émission, le carnage. On a tué un baf.
20 mars 84, le permanent.
Le service de prêt du matériel du ministère a abruptement exigé qu'on lui rende la table de mixage. Nous n'avons pas droit à des prêts à longue durée, contrairement à ce qui nous avait été promis. Il faudra donc rendre aussi les decks et les micros en juin prochain. Comme vous le voyez, les perspectives sont excellentes. Bon, on va chercher d'autres solutions. Et si vous en aviez des solutions ? Bon, en attendant, il faudra se débrouiller.
21 mars 84, inconnu anonyme.
Souriez, gardez le moral.
18 décembre 84, nuit bleue.
Le Lenko a pris des cours de dérapage ce week-end. J'ai vérifié le Lenko. C'est bêtement la cellule qui pivote quand on s'appuie dessus. Ce qui ne devrait pas arriver quand on sait faire de la radio un minimum. C'est quand même grave que des radiateurs ne soient pas foutus d'équilibrer un bras de pick-up. Faut-il prévoir un écolage ? Par ailleurs, ce vieux brol de Lenko est d'une qualité supérieure à celle que la plupart des gens utilisent chez eux. Je dirais même que c'est très pro, malgré l'âge. Ceci dit, pour ceux qui le regardent avec commisération, alors qu'ils ne savent même pas le faire marcher. Quelle pitié.
Les radios libres, otages des calculs politiques.
Les avantages sur le plan législatif dont bénéficient les radios de l'ALO par rapport aux radios commerciales du GRIB ne sont pas de réels avantages. Ils représentent pour le Parti socialiste, régnant à la communauté française, une monnaie d'échange afin d'obtenir du PRL, installé au gouvernement national, l'octroi à la RTBF de la publicité. En fait, le PS sait qu'il faudra s'entendre avec le PRL, dont la revendication principale est la reconnaissance, moins de radio commerciale que de RTL-TVI. En 1984, un pas est franchi dans cette direction. Philippe Moureau, ministre-président de l'exécutif de la communauté, instaure une commission de réflexion sur l'avenir de l'audiovisuel, la commission Irène Pétri. Cette commission est chargée de rédiger un rapport sur l'applicabilité du fameux décret de 1981 qui excluait la reconnaissance de radio commerciale. La commission double littéralement l'inefficace et malheureux conseil des radios locales, ravagé par ces contradictions. Le rapport est rédigé en mars 1984 et préconise l'ouverture des radios à la publicité commerciale et aux groupes de la presse écrite, à condition cependant qu'une radio ne soit pas la propriété d'un groupe de presse. C'est une victoire pour les radios du GRIB, encore que la notion de radio locale soit toujours gardée. Jean-Luc Outers, membre de cette commission, interviewé par Courrier 1030, numéro 16, avril 1984, page 6-7, s'exprime à ce sujet.
Un débat important a eu lieu sur le thème de la publicité. Le principe, c'est que la publicité commerciale est admise si elle est admise ailleurs, c'est-à-dire sur les RTBF et les TV communautaires. L'admission de ce principe a été compensée par un principe de solidarité financière entre les radios locales. C'est la formule qui a été retenue. Certains ont voulu aller plus loin. Ils voulaient instaurer un fonds de péréquation, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain quota de rentrée publicitaire, le reste aurait dû être partagé entre les différentes radios en fonction de toute une série de paliers, et cela pour garantir la liberté de ceux qui n'ont pas envie de faire de publicité. Il n'y avait pas accord pour retenir ce principe de manière si précise. Solidarité financière. C'est difficilement applicable, il faudra voir si c'est autre chose qu'un vœu pieux, une utopie. Cela dépendra de la volonté politique des pouvoirs publics.
Entre parenthèses, voilà donc la première ébauche de ce qui deviendra plus tard l'aide ministérielle à la création, puis le fonds d'aide à la création. La commission recommande aussi que la communauté aide en matériel et en service les radios reconnues. C'est un alibi qui cache le refus de subvention des radios. Cette recommandation n'aura d'ailleurs jamais aucune application. Réaction de Stéphane Lepoutre, nouvel animateur de Radio Panique, membre du Conseil des radios libres, dans le même numéro du courrier 1030, page 8.
À mon sens, les propositions de la commission aboutissent à intégrer les radios locales dans la logique du marché. Marché de la publicité et marché de l'information. Si les radios locales d'expression veulent survivre, elles devront une nouvelle fois se battre, et vite.
Comme un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit.
Radio Panique, Radio Panique, Radio Panique.
Nous continuons avec Madame Colette Magny. Répression.
Répression, répression, répression. Alors, on garde son sang-froid ? Aïe, pardon, je vous ai écrasé, gros orteil, je suis des bricades d'intervention. Répression, répression, répression.
Je te brouille, tu me brouilles, il nous brouille. Quelle soupe.
En 1984, c'est la jungle sur les ondes FM. Les grosses radios brouillent impitoyablement les petites. Parfois, nous avons encore le cœur à en rire. Nous nous demandons si Radio Panique n'aurait pas plus de chances d'être entendue en ouvrant les fenêtres du local et en dirigeant de puissants haut-parleurs vers la rue. Et pourtant, l'innocente Radio Panique est elle-même objet de plainte.
Message affiché de Carlos D'Amata.
Vendredi 16 du 12 1983. Monsieur Sauvenière, entre parenthèses RTT, et un officier de la PJ sont passés. Ils ont contrôlé l'émetteur et défait l'affiche, entre parenthèses, pas exprès, à réparer convenablement. Ils demandent les factures de l'antenne et de l'émetteur. j'ai signé un procès-verbal suite à la plainte. Le dossier suit vers le procureur du roi.
Quel responsable de radio ne connaît pas à l'époque M. Sauvenière? Il dirige le service du spectre de la RTT, chargé de la surveillance des ondes. Ce monsieur est très gentil et très bavard, un peu obséquieux même, mais il est avant tout un policier. Il adore questionner les gens sur leurs opinions quant à la situation des radios. Il prétend qu'il vient visiter nos installations sur base d'une plainte. Mais n'est-ce pas simplement par curiosité professionnelle? Quoi qu'il en soit, nous recevons sans cesse des menaces téléphoniques de la part de Radio Flèche, une radio non reconnue que nous brouillerions. Changez de fréquence ou nous venons mettre le feu à votre radio. J'ai beau être de tempérament plutôt calme, je frémis intérieurement lorsque des animateurs de cette radio menacent mon intégrité physique, toujours par téléphone. Tu sais ce que c'est un handicapé, non? Eh bien, tu vas l'apprendre bientôt, car on va venir te casser la gueule. Tu ne connais pas les Siciliens. Nous, on est des Siciliens, et on ne se laissera pas faire. Une fois, je leur réplique, « Ah, nous, on est des Turcs, et ce ne sont pas les Siciliens qui nous font peur. » Aujourd'hui encore, je suis honteux de ma répartie, mais toujours est-il que les intimidations se feront plus rares. Souvent, on téléphone aussi pendant les émissions, pour nous injurier grossièrement. Ou bien on ne dit rien, mais alors on bloque la ligne. Même la grande radio Contact semble être gênée par notre choix de fréquence. Et son directeur nous écrit pour nous demander de respecter sa notoriété et son antériorité sur les ondes, c'est une citation, et de bien vouloir changer de fréquence. Copie transmise à la RTT.
Journal de bord, 9 décembre 83, Femme, je vous aime.
Régine, Rudy Van Vlanderen, patron de Radio 7 à Zelik, a téléphoné pour savoir si on allait déménager. On a répondu qu'il n'y avait pas d'autres fréquences dégagées, mais que de toute façon, notre but n'était pas de leur nuire, mais bien de pouvoir faire de la radio comme tout le monde. Il a dit qu'il avait peur d'être saisi s'il augmentait la puissance de sa radio. Très poli, hein? Puis, 10 coups de fil anonymes avec des menaces. Radio Flèche sans doute. Ils ont l'air de rien comprendre. Restons poliés fermes, n'est-ce pas?
Catastrophe. Fréquence L, autre radio non reconnue, commence à émettre début 1984 et s'installe carrément sur notre fréquence. Nous déposons plainte. Par principe, on ne veut pas changer de fréquence, sûr de notre bon droit comme radio reconnue. Mais le procureur du roi ne poursuit pas fréquence L. D'après M. Sauvenière, donc le responsable du service du contrôle des ondes, fréquence L émet avec une puissance inférieure à 100 watts. Peut-être, mais leur antenne est située sur un building de l'avenue Louise et décuple cette puissance. Par contre, le procureur ne donne pas suite non plus à la plainte de Radio Contact contre nous. Il n'aurait plus manqué que ça.
Extrait du journal de bord de Radio Panique.
13 février 84, self-service.
On est brouillé, sans doute par Belle FM.
14 février 84, fréquence rose.
On est brouillé par une nouvelle radio. Fréquence L, qui émet sur notre fréquence.
17 février 84, flash culture.
L'émission passe dans le studio, mais trois maisons plus loin, Belle FM passe canon. Il est temps de prendre des dispositions.
4 mars 84, Wild Wattage.
On vous aime tous. Mais pourquoi que Nestor il a cassé toute la choucroute de Kent? Fallait pas toucher au Grisby de Colvic. Maintenant, on doit tous faire de l'ananas à l'esturgeon. C'est encore un sale coup de ces gonzesses de fréquence L. Je les préfère encore entre les cuisses slurp, qui ont mis du narcotique dans mon petit lait. J'en ai marre de Belle FM. Je suis plus foutu de mixer correctement à cause d'elle. Réflexion de Thierry un dimanche soir sous l'effet d'une émission qui n'est plus écoutée que très localement. Un coup de fil pour une moyenne de 7 ou 8 les autres semaines.
9 mars 84, Flash Culture.
Oh, quelle fréquence, Belle FM! Je ne reçois plus Radio Panique. C'est dommage et c'est triste, car j'aime Radio Panique.
11 mars 84, Presencia Latino-Americana.
Nous sommes découragés. Nos anciens auditeurs, Microclimat, ne sont plus en mesure de nous capter.
18 mars 84, Wild Wattage.
Record, un coup de téléphone. On voit tout en noir.
25 mars 84, Presencia Latino-Americana.
Aujourd'hui, pour notre dernière émission, pas de table de mixage. Au revoir à tous et bonne chance. Adios, Marion et Carlos.
27 mai 84, Brainwashing.
C'était la dernière, on arrête. Circuler, il n'y a plus rien à voir.
31 mai 84, Blonde de Mèche in the Stump.
Blonde de Mèche continue encore.
8 juin 84, Flash Culture.
Je suis Luc Roussel et je ne vois personne de Flash Culture.
Radio Panique acculée a changé de fréquence.
Le 11 avril 1984, un arrêté royal modifie celui d'août 1981. Les radios locales peuvent disposer aussi de la bande 104-108 MHz. Auparavant, on ne pouvait pas aller au-delà de 104 MHz. La Conférence internationale de Genève établit en novembre un nouveau plan de fréquence européen. Elle attribue à la communauté française 13 émetteurs de 20 et 50 watts dans la sous-bande 100-104,8 MHz et 345 assignations pour des émetteurs de 160 watts dans la sous-bande 104,9-108 MHz.
Débrouillage de fréquence L éteignent Radio Panique. La justice ne réagit pas. La situation est intenable. Il faut changer de fréquence. Nous opérons de nouveaux tests d'écoute. Interminable tour de la ville en voiture, transistor sur l'épaule. La décision est prise pendant le mois d'août. Radio Panique émettra désormais sur 106,5 MHz. Nous cessons de croire au Père Noël et estimons qu'ainsi nous pourrons être entendus, au moins à Saint-Jos et dans la plus grande partie de Schaarbeek, ainsi que partiellement à Bruxelles-Ville et Etterbeek. Mais le passage sur 106,5 ne changera pas grand-chose à notre situation calamiteuse.
Extrait de Courrier 1030, numéro 19, octobre 1984, page 10.
Ne tournons pas autour du pot. Radio Panique ne va pas bien. La cause n'est pas désespérée, mais pourrait le devenir. De quoi souffre Radio Panique ? D'un peu trop de maladies à la fois. Dans le rayon maladie générale, Radio Panique a les mêmes problèmes que les quelques autres radios non commerciales qui subsistent encore à Bruxelles. Par manque de moyens, Radio Panique émet avec trop peu de puissance et trop peu de relief pour pouvoir soutenir le minimum nécessaire de concurrence par rapport à la pléiade des autres radios qui encombrent la bande 108 DFM et se mènent une guéguerre sans merci. Quelle solution ? La solution au niveau politique nous échappe entièrement. Trouver de l'argent pour améliorer les conditions techniques, 300 000 francs au moins au départ. Une souscription a été lancée. D'autres moyens se mettent en place, notamment le lancement d'une sono.
C'était l'état de grâce de Radio Panique et de très courte durée. Bonjour la crise sur fond de conquête irrésistible des ondes par les radios commerciales. Troisième chapitre de la série « Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique ». Première partie, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, Radio Panique s'enfonce dans la crise.